Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. C'est une journée de ville, une journée simple faite de rencontres dans la rue. Alors on demande une information parfois et on nous répond. Certains font des pas pour nous, ils vont se déplacer. On veut savoir où se trouve tel édifice. Alors la personne nous dit « Venez, venez, je vais vous montrer ». Alors on fait des pas pour l'autre. On est content de le faire. Les gens vont plus loin que la seule question qu'on leur a posée pour nous aider et nous montrer ce que nous cherchons. Je remarque ce qui les impressionne le plus, c'est la paix et la joie. Je crois que la joie est le déclencheur le plus important pour créer un premier lien avec le monde, avec les gens. Vous allez me dire, ben c'est normal. Oui, mais une joie simple, un premier contact, c'est l'allumage, une sorte d'allumage avec les autres, avec les gens. Parfois, ce sera une parole d'humour, tout simplement dans le regard, le visage, les yeux. Le regard dit beaucoup. Alors, je pense que ce sont les liens qui tissent la vie quotidienne, qui font qu'une ville est attrayante, qu'une ville est agréable. La ville est agréable par les gens qui l'habitent. Si les gens ne sont pas agréables dans un endroit, comment voulez-vous qu'on apprécie les monuments? Il me semble que ça ne va pas ensemble. Il faut vraiment que les personnes qui habitent la ville aient une humanité compatible avec les gens qu'ils reçoivent, qui soit sous le signe de la joie, de la confiance, de la bonne humeur, du respect. Là, je pense qu'on avance à ce moment-là. Donc, le taxi, le jeune papa de Daniela, qui a 5 mois, nous laisse devant l'édifice où on attend Pedro. Alors, Pedro va arriver. On sait peu de choses de Pedro. Très peu de choses. On sait qu'il est plein de vie, que c'est un tempérament joyeux, qu'il aime son travail, mais on sait très peu de choses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant l'agence, eh bien, nous allons l'apprendre là. Parce que lorsque Pedro arrive, il arrive avec une femme. Et c'est pas son épouse, c'est sa patronne. Alors mon collègue, qui croit, lui, que c'est l'épouse de Pedro, s'avance, bon, spontanément, et fait la collade. Alors il croit vraiment que c'est l'épouse de Pedro. Mais c'est pas l'épouse de Pedro, c'est sa patronne. Alors on a beaucoup de plaisir à se rappeler ces choses. Et la patronne, elle s'appelle Maria Lourdes. C'est un beau nom, hein? Maria Lourdes, c'est une belle personne. C'est elle qui possède l'agence d'immobilier. Alors, on va pouvoir causer un petit peu avec elle, je m'informe. Je m'informe si le travail est difficile, quelle est la clientèle, etc. Donc, c'est intéressant. Alors, elle va me dire, oui, c'est difficile. Nous sommes dans une période économique qui n'est pas facile. Alors, les clients viennent de partout dans le monde, parce que c'est un immobilier assez précis dont elle s'occupe. Alors, les gens viennent du Japon. Les gens viennent d'Allemagne, les gens viennent d'un peu partout dans le monde, ils achètent des propriétés. Ils viennent passer 1 mois, 2 mois, ils s'en retournent dans leur pays, bon, ils sont là pour le travail parfois. Alors c'est tout un contexte que nous découvrons dont on n'entend pas souvent parler, mais qui existe. Alors, elle s'inquiète de la santé de mon collègue, qui a la grippe. Et là, elle va proposer tout de suite d'arrêter dans une pharmacie pour prendre des médicaments. Alors, on a là la délicatesse d'une femme d'affaires, oui, mais qui écoute l'humain. Donc, elle perçoit chez mon collègue quelque chose et on s'arrête à la pharmacie et elle va trouver les médicaments. Et elle va même lui dire, dans 2 jours, si vous n'avez pas réglé cette histoire-là, je vais vous présenter à mon médecin personnel. Alors ça, c'est de l'accueil. Ça, c'est de la disponibilité. Ça, on apprécie. Ça touche notre cœur. Parce que quand on est ailleurs, on n'est pas chez soi. Quand on est étranger, on est heureux d'être accueilli comme cela. Et la petite phrase qui revient toujours, hein, « Ma maison, c'est ta maison ?» Alors, on l'entend aussi. Hein. « Tu es avec moi ? Eh bien, je m'occupe de toi. » Je ne te parle pas seulement de ce que je fais, de ce que j'accomplis, mais je perçois que ta santé n'est pas bonne. Là. Il faut s'occuper de toi. Il faut s'occuper de ta santé. Il faut s'occuper de ton salut. Parce que le mot salut et le mot santé, c'est la même racine. Hein? Ça veut dire la même chose. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Le curé s'était approché doucement de Clarisse la folle. Alors qu'il voulait simplement la toucher, elle avait mordu à la main. Au grand scandale de ceux qui la lui avaient amenée. Quelqu'un, voulant le défendre, avait tenté de gifler la fillette, mais le curé avait retenu son bras et déclaré, en les regardant tous, « Cet enfant, c'est moi !» Baissant les yeux, il s'était retiré dans le jour naissant, un peu inquiet des paroles du curé, mais secrètement content de ne pas avoir cette fille abandonnée sur les bras. Le curé s'efforça de redonner un peu de dignité humaine à la malheureuse créature et lui donna un nom et une habitation. Dans son univers de cheveux épais, Clarisse allait désormais pouvoir vivre et habiter une petite cabane près de l'église Sant'Antonio, heureuse et tranquille. Voilà donc qu'après tant d'années de silencieuse retraite, Clarisse la folle, comme on l'avait surnommée, s'était mise à hurler, au beau milieu d'une nature déchaînée. Ses cris avaient fait naître au cœur de chaque maison quelque chose de mystérieux et d'horrifiant. Cette étrange alerte de Clarisse la folle fit monter dans le cœur ricanant de ceux qui l'avaient jadis mené au curé ces paroles méchantes. « C'est le curé, il est fou !» Tout devait éclater. Un ouragan allait dévaster cette petite partie du monde sans histoire. La cloche de l'église Sant'Antonio s'était mise à sonner toute seule. Chacun, le nez à la fenêtre, vit passer devant lui tout le village. Charrettes, arbustes, pailles, chaudières, branches d'arbres, cheval de bois, ballons d'enfants, chaises, bancs, barreaux de galerie, persiennes. Tous se cramponnaient à leur monde, priant le ciel de les épargner. Toute la vie quotidienne, dans ce moment sombre, fut soulevée dans les airs. Puis, la cloche de la petite église cessa son tintement nerveux dans un dernier coup de bourdon qui enfonça avec lui tout le village dans l'horreur. Le nez aux fenêtres, les gens de l'intérieur criaient « Le clocher s'est écroulé ! Le clocher s'est écroulé !» Personne n'osait sortir, et tous pensèrent au curé. Sous une violente poussée, le clocher venait de s'effondrer. De la cabane de Clarisse la folle, il ne restait plus rien. Bravant la tempête, le curé avait repris la folle avec lui. C'est alors que le grand arbre, près de la fontaine sur la place publique, céda à son tour, dilapidant ainsi ses trésors comme ses branches éparpillées un peu partout dans le village.
toujours le nez aux fenêtres, les gens eurent l'impression que quelque chose d'important venait de se casser en eux. C'était l'arbre, aux mille histoires.
L'arbre, le vieil arbre, le grand arbre, mon arbre,
disait-il. Plusieurs parmi eux éclatèrent en sanglots. Tant de souvenirs étaient noués autour de cet arbre. Les jeux de l'enfance avec leurs éraflures, les premiers baisers, les pleurs secrets et les pipées des vieillards, toute cette mémoire venait de voler en éclats. Ce soir-là, le petit village se replia sur lui-même, chacun s'accrochant de toutes ses forces au toit de sa maison. Pour tenir dans l'ouragan, ils auraient le poids de la peur et le souvenir du grand arbre éventré.
Petit Jean, lui, s'était réfugié avec ses moutons dans la bergerie. Il avait acquis de la sœur de Pépé Antoine ce lopin de terre que ce dernier avait laissé avec une petite maison et assez d'herbes pour faire brouter les bêtes. C'est là qu'il vivait désormais, répondant ainsi à un besoin de paix que sa mère avait bien compris, au grand dam du père désorienté par son fils. D'ailleurs, le coup des arcs et des flèches lui avait donné une honteuse réputation aux yeux des gens du village.
Petit Jean s'occupait donc de ses moutons, qui, dans le fracas de l'ouragan, bêlaient à qui mieux mieux tout en se piétinant. Tant bien que mal, il tentait de les rassurer, mais les bêtes frémissaient autant que les humains.
« Allez, allez, vous êtes tous là ? Non ?
Du calme, du calme !» leur disait-il. Mais les brebis restaient affolées et se piétinaient sous l'orage. Petit Jean se mit alors à circuler autour d'elles, en répétant toujours les mêmes paroles.
« Allez, allez, vous êtes toutes là, ensemble ?»
Puis, nerveusement, il fut étonné de s'entendre leur dire
« Allons, allons, nous sommes tous là, non ? Nous sommes ensemble ?»
Venait-il de comprendre comme Zébeth se ressemblait dans la peur ? Personne n'osait sortir. Le jour s'était levé, la nuit avait été horrible. Le calme revenu, nul n'osait ouvrir sa porte avant son voisin. D'où venait donc cette hésitation? Les catastrophes n'unissent-elles pas les gens? La misère n'engendre-t-elle pas des corvées spectaculaires? Comment expliquer ce repliement? Était-ce la honte? C'était peut-être cela, la honte. Cet ouragan venait de mettre leur âme à nu. Le piège de l'instinct venait de leur monter au cœur sous le choc de cette crise de survie qu'ils venaient de traverser. Voyant défiler les chaux du voisin, le nez à la fenêtre, chacun s'était dit en lui-même « Pas moi, pas moi !» Ce n'est donc pas toujours vrai que les catastrophes unissent les miséreux. La misère engendre aussi la faim, et lorsqu'on est trop nombreux, on s'arrache le pain pour survivre. Cette honte gardait donc encore cachée chaque maisonnée et son toit. Et soudainement, la vie avait pris le dessus. Elle avait surgi par l'arrivée de Clarisse la folle, qui gémissait en cherchant ses morceaux de cabane, qu'elle trouva près d'une galerie de maisons. La folle fit donc sortir ceux qui, le nez à la fenêtre, restaient figés. Peu à peu, les portes s'ouvrirent dans le village, mais les gens ne se parlaient pas. C'est alors que chacun se mit à tournoyer autour de sa maison, découvrant ce qui restait et ce qui manquait. Puis, de voisin en voisin, on se mit à se dire tout ce qui manquait, chacun se mettant à la recherche de ses morceaux emportés. Bien des choses furent retrouvées deux ou trois ruelles plus loin. Le petit village mit quelques jours à faire son casse-tête, chacun reprenant jalousement ses morceaux. Clarisse la folle logeait à nouveau dans sa cabane de fortune, tout habillée de son monde de cheveux épais. Mais la petite église Sant'Antonio restait sans clocher. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.